Drainville PM. La voix est libre.
Moi, je suis un Canadien québécois. Un Français, Canadien français.
Ah bon?
Un Américain du Nord français. Québécois canadien.
Voici Luc Lavoie.
Alors,
ça, c'est extrait-là d'Elvis Gratton, là, c'est
écoute, ça passe à l'histoire, ça, c'est fantastique. Alors, toute l'équipe a pris des vacances, sauf toi, tu restes là.
Moi, je suis tout le temps là, mais non, moi, je m'en vais pour 2 semaines, là. Je vais te laisser.
Plus tard, un petit peu.
Un petit peu plus tard.
Un petit peu plus tard. Alors, on va parler de la fierté canadienne.
C'est la fête du Canada.
Parce que moi, j'emmerde Luc avec mes séparatistes, puis lui m'emmerde avec ses fédéralistes, puis on aime ça s'emmerder un petit peu les deux, nous on a du fun avec ça.
Ben écoute, je veux dire une chose, pourquoi suis-je fédéraliste? Pour un certain nombre de raisons. Raison numéro un, je ne crois pas dans la vision de l'État comme étant une sorte de corps mystique dans lequel la collectivité se regarde comme dans un miroir. Je crois pas là-dedans. Moi, je pense que...
Mais t'as un État canadien, là.
Oui, bien sûr, mais je crois pas dans cette vision étatique qui est « faut que je me reconnaisse en tant que peuple » et patatatata. Moi, j'aime le Canada parce que c'est un pays qui offre liberté, un niveau de liberté comme je n'en connais pas ailleurs, nulle part dans le monde, premièrement. Deuxièmement, cette liberté-là est protégée par un système judiciaire qui est probablement un des plus admirés dans le monde par son indépendance. Troisièmement, appartenir à un plus grand ensemble, ça me permet de participer à des institutions comme la Banque du Canada qui fait qu'on a une devise qui nous permet de jouer dans les grosses ligues sur la scène internationale et économique. Oui, donc j'ai pas fini. Et ultimement, la vraie de vraie raison, je vais t'expliquer quelque chose qui est très... Oui, mais c'est toi qui vas...
J'essaye, je mets ma main sur la gueule, j'essaye de pas te couper.
Ultimement, le Canada a ceci de particulier par rapport à beaucoup d'autres pays du monde et plus évidemment les États-Unis, c'est que l'admiration au drapeau, cette espèce de connexion émotive que les larmes me montent aux yeux quand je vois le drapeau, tout ça, c'est pas en nous, puis c'est pas au Canada anglais non plus, ça ne fait pas partie de cette... Pour moi, un État, c'est un encadrement qui permet de vivre en société de façon harmonieuse, de façon prospère et dans la paix. Et pour moi, le Canada offre ça, maintenant on me dira... Ça, là, pour arriver à cet équilibre des forces-là qui permet de protéger nos libertés puis notre prospérité, tu touches à un morceau puis le château peut s'effondrer. Moi, je ne vois pas ce que m'apporterait le fait de chambarder toutes ces structures-là. Je le vois sincèrement pas. Et je comprends que... Tu sais, moi, quand je vois des maires de drapeaux là, américains, ou québécois dans les grandes... Je suis devant ça, les drapeaux, puis moi, je me dis, les drapeaux, là, c'est au nom des drapeaux qu'on mène les guerres, OK?
Ben, c'est ça. Moi je veux le pas problème, ça. Je trouve, c'est qu'on parle de patriotisme, pas quand on fait des belles affaires, juste quand c'est le temps de taper sur la gueule des autres.
Il y a ça. Puis j'aime bien une chose, que Dan, c'est que toi, tu utilises le mot patriotisme, OK?
Oui.
Et je rappellerai cette phrase, je ne me rappelle plus, mais je pense qu'elle est de Romain Gary, l'écrivain maintenant décédé il y a une vingtaine d'années.
Romain Gary ou Aimé Lajeur, il écrivait sous les deux.
Il a écrit sous les deux noms. Il a écrit 2 livres sous le nom d'Aimé Lajeur. Romain Gary disait « Le nationalisme, c'est la haine des autres. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. » Et moi, j'aime beaucoup mieux le mot « patriotisme » parce que le patriotisme a quelque chose d'abord de plus inclusif. Nous sommes patriotes au sens où nous sommes fiers d'avoir... C'est une chance inouïe de vivre en terre canadienne. Tu sais, franchement, là, c'est comme une équipe de hockey. Tu sais, je vais prendre un exemple, Quétaine, puis après, je te laisse la parole. Tu regardes une équipe dans le temps, là, des grandes équipes de Scott et Bowman. Puis là, tu disais, pourquoi est-ce qu'il met Jim Roberts, là? Il est tellement mauvais, il sait pas patiner, en plus. La vraie réponse à ça, c'était oui, mais... C'est l'équipe qui a ramassé le plus de victoires dans l'histoire du hockey. Alors, le Canada, c'est écœurant, ils ont fait ça. Regarde, fais le tour du monde, et c'est une des chances que j'ai eues dans la vie de faire le tour du monde à quelques reprises. Je vais te dire une chose, des pays comme le Canada qui offrent liberté, prospérité et une vie comme ça pour élever des familles, il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autres. J'en en connais pas un seul. Même la Suède, qui est un pays admirable à mes yeux, a des côtés...
Qui a des très bonnes idées.
Qui a des très bonnes idées, non, bien sûr, mais je veux dire, c'est une culture rigide, très nordique, tout ça.
Ça frette.
Et puis, non, il fait moins frette qu'ici, tu sais ça. Hein?
En Suède?
Ben oui.
Ah
ben
oui. Oui.
À cause, je ne sais pas si c'est le Gulfstream ou quoi.
Encore, Luc, vous me faites accoucher moi, j'ai essayé ça.
Il n'y a pas de neige à Stockholm, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de neige à Stockholm. Puis ce qui est merveilleux, c'est qu'à ce moment-ci de l'année, j'ai déjà été à ce moment-ci de l'année à Stockholm, on s'éloigne de notre sujet, là, mais présentement, c'est comme le soleil de minuit. Hein. Et il ne fait jamais complètement noir à ce moment-ci de l'année. En Suède. Mais revenons à nos moutons.
Ben, juste,
voilà pourquoi...
Toi, tu parlais de patriotisme. Moi, je veux dire... Juste être un petit peu connu comme je le suis, là, on va jouer ailleurs, puis de la façon dont je me sens reçu par les Québécois. Quand t'es en France, on appelle ça une superstar. Ici, c'est pas ça, tu fais partie de la famille.
Oui, oui.
Fait que tu parles de patriotisme ou de nationalisme. Moi, je me sens en plein familisme.
Moi, je comprends ce que tu dis.
Tu fais partie de la famille.
C'est-tu quoi là-dessus, je te rejoins? Parce que moi, je suis un gars de Rimouski, OK? Ça, le Rimouski, là, tu peux pas avoir plus francophone que ça, parce que pour des raisons géographiques multiples... Quand j'ai grandi, moi, il n'y avait pas de radio en anglais, il n'y avait pas de télé en anglais, il n'y avait pas de journaux en anglais, il n'y avait pas d'anglais. Je me souviens même, moi, je restais sur la 9e rue Ouest à Saint-Pédis, de quartier de Rimouski. Puis à un moment donné, sur la 10e rue, il y avait un camion de déménagement. C'était des Québécois qui rentraient de quelque part en Ontario, je ne sais pas, mais les déménageurs parlaient en anglais, puis nous autres, on trouvait ça cool. On allait se cacher dans la petite haie pour les écouter parler anglais. T'sais, c'était le début des Beatles. On entendait de l'anglais, on trouvait ça exotique. Alors, mais quand
j'aviais même pas de Boucard Diouf dans ce temps-là.
Ah, ben oui, c'était bien avant Boucard. Mais moi, quand je retourne à Rimouski, puis j'y retourne toujours, puis j'y retournerai toujours, c'est sûr que ces airs de famille-là, je les ai. C'est sûr que, comme instinctivement, dans mon ADN, je sens que je viens de là. Je sens l'odeur du fleuve. Je sens les gens aussi. Je connais comment ils vont réagir. Puis je suis pareil comme eux autres. Je suis un d'entre eux. Je suis pas mieux, je suis pas pire. Donc, le familisme, comme tu me l'avances, je l'adopte, moi. J'ai pas de problème avec ça.
Okay. Fait que t'es pas vraiment un Canadien francophone, québécois, de souche, de
Moi, je pense que
je me rappelle plus du monologue d'Elvis Gratton, mais c'était une pièce d'anthologie.
Moi, je suis un produit de la culture occidentale, né en français dans une terre francophone en Amérique, qui est en soi quasiment un miracle que ça existe toujours. Je rêve en français, je lis d'abord en français, ma culture est d'abord francophone. Les chances de ma vie
ont... Tu t'es promené beaucoup.
Je me suis promené un peu partout. J'ai appris à parler l'anglais, presque sans accent. Je parle l'espagnol. Mais d'abord, quand je rêve la nuit, là, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça, si tu veux savoir c'est quoi ta vraie langue, c'est quand tu rêves la nuit, tu rêves dans quelle langue? Moi, je rêve en français. Puis moi, je connais l'histoire du Québec. Puis moi, je suis très, très fier de l'histoire du Québec. Il y a un côté de ça que j'aime pas.
J'ai rêvé que je disais merde. Là, j'ai été angoissé.
Ah, tu t'es dit, ça y est, je vais devenir un Français.
Complet,
je vais devenir un Français.
Complet. Juste, je te sors du sujet, juste pour... Pourquoi on dit les Américains? C'est un continent. On ne devrait pas dire les États-Unis? C'est un continent, l'Amérique. Là, t'as l'Amérique du Nord, centrale, puis du
Sud. Je l'ai vécu parce que j'ai été commissaire général du Canada à l'exposition universelle de Séville. Puis là-bas, quand tu parles à des Espagnols, eux autres, América, là, c'est les États-Unis.
Ah oui.
Puis le Canada, ben, ils situent pas ça. Puis tu leur dis, non, c'est l'Amérique du Nord, c'est le Canada, le Mexique, puis les États-Unis. Pas comme ça qu'ils voient ça. Alors ça, un peu tard pour changer ces habitudes-là, tu comprends. Okay. Alors voilà, je vous ai exprimé. Tu sais, ma foi dans le Canada n'est pas une affaire dans le genre « Mon Dieu que j'aime ce drapeau-là! » Puis mes rocheuses! Oh mon Dieu, mes rocheuses! Puis le beau port de Halifax. Tout ça, c'est vrai, c'est magnifique, là, comprends-tu, ce pays-là? Mais c'est pas ça qui me fait carburer. Moi, ce qui me fait carburer, c'est que si ça me tente de penser quelque chose, personne ne va m'en empêcher. Puis de l'exprimer, personne ne va m'en empêcher.
Personne ne veut non plus.
Puis, puis nous autres, le niveau de liberté dont on jouit est absolument extraordinaire. C'est pourquoi, en passant, puis on s'enligne pas trop là-dessus, pas du tout, là, mais la loi 21, ça me répugne, ce genre d'affaires-là, parce que c'est le contraire de ce qui me guide dans la vie. Moi, c'est d'abord les droits fondamentaux. Mes droits de faire ce que je veux dans la vie. Puis moi, je te le dis, c'est en français que je veux que ça se fasse, puis mes enfants, ils ont été éduqués en français, puis comme moi, ils parlent trois langues, toi et deux, puis... Et voilà, quoi. C'est comme je suis un francophone d'Amérique qui s'est trouvé une espèce d'environnement étatique qui s'appelle le Canada, qui correspond à qui je suis, c'est-à-dire quelqu'un qui est assoiffé de liberté.
Notre seule différence, moi, j'ai la même chose que toi. Puis moi, je veux ça. Je suis un gars très inclusif de tout le monde, de nature.
Je le sais,
j'ai toujours été. Mais moi, je vois ça dans le cadre du Québec. Mais je veux la même chose que toi. Fait que d'après moi, on peut discuter pas mal tout l'été. Ça va être cool, ça. Au retour, on va ouvrir les lignes. Est-ce que vous ressentez votre fierté canadienne? Arrêtez de penser à Elvis Gratton, là. Puis donnez-nous des vrais commentaires. À tout de suite. Alors, vous voyez pas, là, Luc est debout, la main sur le cœur. Hey, je vous rappelle les numéros pour nous rejoindre. On aimerait beaucoup votre avis. Ressentez-vous votre fierté canadienne pour nous rejoindre? 514-790-9850. Pour ceux qui sont hors Montréal, c'est 1-866-790-9850. Alors, on a un premier appel tout de suite, c'est Marc. Salut, Marc.
Oui,
bonjour. Ça va bien?
Oui, ça va bien, ça va bien. Puis la fierté canadienne, pour moi, elle est extrêmement importante parce que moi, je suis né au Québec. Et puis, quand je parle avec mes enfants, ils sont nés au Canada comme moi. Fait que quand je leur parle, je leur dis tout le temps, regarde, on est des Canadiens, on peut bien se comprendre. On ne peut pas dire, oh, je viens d'ailleurs, je ne connais pas la culture, je n'ai pas vu les tempêtes de neige, je n'ai pas vu la pluie. Parce que la raison pour laquelle que je dis souvent ça, le Canada, c'est le meilleur pays dans le monde, tout complet, là. On parle économiquement parlant, on a le droit de parler. Si, admettons, demain matin, j'aime pas le premier ministre, je peux bloquer un pont, puis il va pas me mettre en prison. Mais par contre, il y a des pays dans le monde, je vois ça à mes enfants, juste le penser, c'est déjà en prison.
As-tu connu ces pays-là? Je dis ça juste parce que j'entends un accent, je me pose la question.
Non, oui, j'ai connu ces pays-là parce que où j'ai travaillé dans le passé m'a amené à voyager dans certains pays dans le monde.
Oui.
Je peux vous dire que écoutez, c'est beau. Moi, j'étais à Dubaï. Je vais vous donner un meilleur exemple. J'étais à Dubaï. Juste ouvrir la porte à une femme, c'est mal vu. C'est très mal vu. Imaginez-vous. C'est très, très, très mal vu.
D'abord, okay. Tu voles et te coupes une main, tu penses un peu trop, tu coupes la tête, tu t'excites un petit peu, puis je le dirai pas, là.
Oui, c'est genre de même. C'est genre, alors, c'est pour ça que je dis le Canada, il y a une fierté là-dedans. Alors, c'est pour ça que je dis souvent aux gens, quand on vient, tous les gens qui viennent de l'extérieur, là, qui viennent au Canada, vis et coutume. Les Canadiens, ils fêtent le 1er juillet, tu fêtes le 1er juillet. Tu viens pour le 24 au Québec, tu le fêtes, pareil. Comme ça, t'as pas de problème.
Mais là-dessus, je suis avec vous, monsieur, parce que moi, quand il y a un party, je ne manque pas. Là. Tu sais, il y en a un le 24, il y en a un le 1er, mais let's go. Le party, ouais. On n'haït pas ça.
Luc, c'est un ancien diplomate, il n'a vu des parties.
Voilà. Alors, c'est pour ça que la raison pour laquelle je dis souvent aux gens, quand je dis souvent à mes enfants, regardez, la laïcité n'est pas faite pour nous. Elle est faite pour des gens qui ne veulent pas rentrer dans les rangs. Idéalement, c'est le vice et coutume. C'est le meilleur pays. La meilleure affaire qu'il faut faire, là, pour dire à tout le monde, écoute, c'est le meilleur pays au monde. Tu ne peux pas demander mieux. C'est la base.
Notre ancien premier ministre disait le plus meilleur pays au monde, M. Chrétien.
Ben oui, c'est le plus meilleur, c'est vrai. Parce que
merci beaucoup. Hey, Marc, c'est parce qu'il faut que je prenne les autres. Ils sont tous en file et attendent derrière toi. Là. Imagine
ils
une
ont
grande
tous
ligne.
Tous envie de chanter les louanges de notre pays.
Oui, merci beaucoup, Marc. On a José.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, José.
Je voudrais vous féliciter pour votre travail colossal.
Merci. C'est ça s'adresse
colossal,
à Dan.
Colossal, c'est Luc, ça.
Ça, c'est Dan.
Les deux.
OK, d'abord.
Donc, moi, je voulais juste vous dire que je suis très fière d'être canadienne parce que notre pays, c'est une terre d'accueil.
Tout à fait,
oui. Et j'en suis fière.
C'est un pays où on peut, si on respecte nos lois qui sont assez généreuses, ici, on peut faire la vie qu'on veut, vous savez.
Exactement.
Moi, j'ai une vision de l'histoire que certains ne partagent pas, mais qui est que si on remonte, disons, à la grande civilisation égyptienne, là, puis on vient jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu de constante? C'est de plus en plus de liberté individuelle, de plus en plus la reconnaissance qu'en haut de la pyramide des valeurs, il y a d'abord l'humain. Et tout
c'est
ce qui est humain nous
société au départ.
Et les droits fondamentaux, pour moi, par exemple, on me donnait une statistique tantôt, là, ils ont fait un sondage. Et au Canada, écoutez, êtes-vous fiers d'être Canadien? Au Québec, là, trompez-vous pas, il y a 80% des gens qui sont pas en train de souffrir. Tu sais, comme dit René Lévesque, le Canada, c'est pas exactement le goulag. Et qu'est-ce qui motive les Canadiens à être fiers comme ça, y inclut les Québécois? Tenez-vous bien, c'est la Charte des droits et libertés. Alors, celle-là qu'on vient de suspendre, là, ben, c'est ça qui est la fierté d'être Canadien. Puis c'est pour ça que j'ai été si offusqué par cette loi qui me... qui me ouais, fait mal.
Je peux me comprendre, mais moi aussi, je voudrais rajouter, j'aurais aimé ça que si jamais on a des problèmes ici, tu sais, qu'un pays ne nous juge pas et qu'il nous accueille. C'est tout.
Oui, donc l'accueil est la qualité principale pour vous. Je vous remercie.
Canada,
beaucoup.
Oui.
Oui.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Là, on a Denis avec nous. Salut, Denis. Excuse-moi. Dans l'une. Salut, Denis.
Pas de faute. Vous allez bien?
Oui, oui.
Oui, on va tous très bien.
Excellent, excellent. Et alors, écoutez, moi, deux petits points. Je suis excessivement fier d'être Canadien. Pour toutes les raisons qui ont été mentionnées auparavant, je suis d'accord avec tous les participants et ainsi l'opinion de Luc aussi, sa vision du Canada. Mais moi, j'aimerais rajouter juste une petite chose. Moi, je voyage, peut-être pas au même niveau que Luc, mais j'ai voyagé quand même beaucoup et énormément aux États-Unis puis du côté anglophone canadien pour le travail et pour des activités sportives. Et jamais, puis je dis jamais, c'est un gros mot parce que l'absolu n'existe pas dans mon livre, mais je suis obligé de dire jamais, que je me suis senti opprimé ou jugé lorsque j'allais en Amérique du Nord, dans les sections anglophones, que j'étais un Québécois. J'ai toujours été super bien accueilli, jamais ridiculisé.
Mon cas, monsieur. C'est ça qui m'amuse dans les gens. Pourquoi qu'ils nous haïssent au Canada anglais? C'est pas vrai. Ils ont d'autres choses à faire que nous haïr. Qu'est-ce que tu penses?
Oui, puis
si on parle de pétrole, que ça tourne mal.
Ah, bon, là,
oui, c'est ça. Puis peut-être, Luc, pour peut-être réenchérir un petit peu. Puis je juge pas personne. Je vais juste avec une opinion très, très libérale ici. Là. Des fois, c'est peut-être un petit peu notre attitude qui fait qu'on est perçu différemment lorsqu'on arrive à l'extérieur. Moi, quand j'arrivais dans mes groupes anglophones aux États-Unis ou au Canada, j'arrivais comme étant Denis. Mais des fois, j'écoute certains gens qui ont été faire des voyages, puis ils disent « Aussitôt que je suis arrivé, on me jugeait tout de suite. » Mais si on arrive avec nos gros sabots, en arrivant du côté anglophone, on dit « Ah, oh, le petit Québécois, le petit Frog qui arrive, là. »
Ah oui, oui, alors, ça aussi, hein, ça tient. Ça, ce que vous dites, c'est très, très vrai. Là, des gens qui disent « En tout cas, moi, j'ai pas été trop bien accueilli. » Mais oui, premièrement, il y en a qui pensent que tu vas atterrir à Vancouver, puis tu as juste à t'adresser en français parce qu'il y a quelqu'un dans le mouvement séparatiste qui leur a mis dans la tête que tout le monde serait bilingue à cause de la loi à Trudeau. C'est toutes des conneries, ça. Je veux dire, t'arrives là, puis tu joues ton petit jeu du Québécois qui cherche ses droits. M'a dit, ils en ont soupé de ça, eux autres aussi. Tout comme nous, d'ailleurs.
Moi, je pense qu'il y a bien du monde différent. Je vais à Vancouver, puis je suis pas libre. Ouais.
Ben oui, moi aussi. Pas de problème.
Tout le monde sait vivre. Je pense pas
alors,
je pense pas que dans cette discussion-là entre fédéralistes puis séparatistes, moi, je suis pas souverainiste. Il n'y a pas de mauvais clan. C'est juste des opinions différentes sur comment faire une société meilleure, mais il n'y a pas de...
Il y a des valeurs, tu vois, par exemple. Il y a des valeurs, Dan.
Il y a des valeurs des deux côtés, d'ailleurs.
Oui, oui, mais c'est d'abord ça.
Et même
mais...
si on n'est pas d'accord, il y a une valeur qu'il ne faut pas oublier. Quand c'est la fête de quelqu'un, il faut le souligner. C'est absolument ton anniversaire, mon cher. Et je trouve que tu as de l'air en pleine forme pour un homme de 93 ans. Je trouve ça fantastique.
Bon, il vient de révéler mon secret, mesdames et messieurs. C'est ma fête. Alors, on y va.
Hey, on a quasiment...
mon cher Luc, non?
Hey, on a quasiment le même âge. Moi, j'étais comme Trump qui accusait Biden d'être vieux. Là. Mais sérieusement, je te souhaite une belle fête.
Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup.
Merci, Dan et Luc. Et puis, grand respect pour vous deux.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. On a Lizzie à l'autre bout du fil. Salut, Lizzie.
Oui, bonjour. Ça va bien?
Ça va bien, vous?
Oui, ben moi, regardez, moi, je suis d'origine salvadorienne. Je suis arrivée au Québec à la fin des années 80 à cause de la situation au Salvador.
Oui.
Puis, moi, j'ai... Puis notre famille, on a très bien été accueillis par le peuple québécois et canadien. L'intégration s'est super bien faite avec nous, là, toute la famille. Donc, je n'ai que des bons mots à dire au peuple québécois et canadien. Puis quand moi, j'ai voyagé aussi à travers le monde, là, quand tu es canadien, tu es très bien vu. On est un peuple pacifique, un peuple qui veut pas s'accaparer de tout ce qui est autour de nous. Sincèrement, moi, j'ai une grande fierté d'être canadienne, mais aussi de dire que je suis québécoise.
Ah, je suis exactement comme vous, puis j'aime beaucoup le parcours que vous décrivez. C'est le parcours de beaucoup de nos concitoyens.
Puis j'aime beaucoup le mot accueil qui revient dans à peu près chaque commentaire qu'on reçoit. Je trouve ça le fun qu'on soit accueillant.
Oui, on est une terre d'accueil. Moi, je le dis tout le temps aux gens, le Québec, le Canada ici, c'est vraiment une terre d'accueil. Et moi, quand je vois, tu sais, moi, je suis parfaitement trilingue, français, anglais, espagnol. Puis moi, je le vois comme une richesse, le bilinguisme. Puis oui, j'ai trois enfants, puis pour moi, c'est super important qu'ils parlent français. Puis je leur dis, non, avant que tu te manœuvres l'espagnol puis l'anglais, je veux que ton français soit super bien. Mais tu sais, je veux qu'éventuellement, s'ils parlent les trois langues, puis mon mari, d'origine haïtienne, fait que on a plein de cultures qui baignent à la maison, là. Mais pour moi, c'est important d'appeler, de remercier surtout le peuple québécois canadien, que quand on est arrivé à la fin des années 80, l'accueil qui s'est fait, l'intégration, que ce soit un professeur, que ce soit des gens qui travaillent dans des centres communautaires et tout ça, je pense que c'est une très belle terre d'accueil, puis je remercierai jamais assez le peuple québécois, là.
Ben, formidable de vous entendre, madame.
Ben, c'est nous qui te remercions. Merci beaucoup.
Mais merci, puis continuez votre super belle émission, c'est merci. Le fun.
C'est gentil, on a du fun, merci.
Au revoir.
Luc?
Oui.
Tu veux-tu parler du traité de Versailles?
Rapidement, ben oui, très rapidement, c'est il y a 100 ans aujourd'hui, 28 juin 1919, se signait le traité de Versailles, donc dans le château de Versailles. Ça mettait fin à la Première Guerre mondiale, mais c'est un point tournant de l'histoire, et c'est pour ça que je tenais à le mentionner, là. Il y a 100 ans, disparaissaient deux empires instantanément, l'Empire ottoman, qui était le plus grand empire qu'on avait jamais connu en territoire. L'Empire ottoman, c'était essentiellement ce qui est aujourd'hui le Moyen-Orient. Ça allait jusqu'aux portes de l'Europe de l'Est et tout ça. Et il y a un autre...
Ils ont conquis l'Espagne, même.
Non, pas ce groupe-là. Non, je ne crois pas. Non. Quand on parle de...
C'est les Arabes qui étaient très longtemps.
Oui,
parce que, moi, je suis musicien. J'entends des notes, j'ai pas le choix. J'en voudrais pas, ils sont encore là, c'est fatigant. Puis j'ai beaucoup écouté de musique andalouse.
Oui,
tu sais, c'est quoi les Gypsy Kings? Bon, ça a été très rendu pop, là, c'est très... C'est des chants très
c'est
arabe.
Très arabe, mais ça, c'est autre chose. C'est que c'est l'histoire de l'Espagne est liée. Bon, le traité de Versailles, c'est le moment où... Tu sais, la guerre prend fin le 11 novembre 1918 par une armistice. Et là, on démobilise tous les soldats. Il n'y a plus de réalité sur le terrain. Et là, ils s'installent dans une place à Versailles et dans les grands hôtels, principalement le Crillon à Paris, qui avait servi de refuge. Pendant 167 jours, quand tu lis l'histoire du traité de Versailles, ils ont pris du champagne, ils ont pris un coup, ils ont pris du scotch, ils se sont amusés, ils ont décidé de s'échanger pays comme ça. Bon, l'Empire ottoman, goodbye, on prend un bistouri, puis on découpe ça. Tiens, on va en donner un autre morceau à la Grèce ici, parce que le gars de la Grèce a l'air pas mal sympathique.
Mais comment est-ce qu'il pouvait pas voir qu'il se tirait dans le pied? Ça a créé des conditions d'horreur au peuple allemand qui a aidé Hitler à se monter au pouvoir.
Ben, je comprends, ils ont étouffé complètement. C'était-tu la paix qu'ils voulaient ou la vengeance? L'histoire du traité de Versailles, c'est qu'ils ont choisi la vengeance plutôt que la paix.
Sais-tu, moi, je peux te dire, je suis un guerrier parce que j'ai pas eu le choix. J'ai dû apprendre ça, mais sais-tu c'est quoi le fantasme du guerrier? C'est pas de gagner, c'est la paix.
Ouais. Ben oui.
Se calmer, c'est-tu.
Comme le disait le général MacArthur, un des plus célèbres, il n'y a personne qui déteste autant la guerre qu'un soldat, parce que le soldat, il l'a vu.
Il la vit, lui.
Il la vit, puis il sait ce que c'est, l'horreur de la guerre. Alors, le traité de Versailles, c'est ce qui a mené vers la Deuxième Guerre mondiale. En fait, je pense que maintenant, il y a un consensus chez les historiens que la Première et la Deuxième sont essentiellement la même guerre qui s'est jouée en deux temps. Et à cause de ce traité qui a... Tu sais, ça a créé tous les problèmes du Moyen-Orient. Là. Oublie pas, là, à la fin, au moment du traité de Versailles, là, les Anglais avaient dit, nous autres, on a le mandat d'administrer la Palestine, puis on est ouvert à ça, le retour des Juifs, puis là... Puis après ça, ils se sont mis à reculer. Il a commencé à se créer un problème là. La France a exercé son mandat sur le Liban et la Syrie. Tout ça a donné lieu à une espèce de... Puis l'Allemagne a été étouffée. On les forçait à verser des réparations, on les forçait à ci, on les forçait à ça. Puis à un moment donné, comme tu dis, à un moment donné, les gens étaient tellement écœurés que Hitler, il voyait bien que c'était pas quelque chose, quelqu'un de particulièrement sain d'esprit, mais au point où il en était, tu as dû en voir des images quand il y a eu le désastre économique allemand vers les années 20, on voyait des gens avec des brouettes remplies de marques allemandes, et ça valait 10 US, tu comprends? L'inflation était dans les 1000%. C'était l'effondrement complet.
C'est des terrains qui permettent un populisme atroce tout de suite.
Atroce, et ça a amené, comprends-tu, à... Écoute, le traité de Versailles, c'est probablement la plus grave erreur historique. ça a été, à ce moment-là, que la Société des Nations a été créée, l'ancêtre de ce qui est devenu l'ONU. C'est les États-Unis qui l'avaient imposé, la Société des Nations, mais à cause de leur système particulier qui oblige le Sénat à ratifier les traités internationaux, Woodrow Wilson, qui avait imposé la Société des Nations, qui deviendra plus tard les Nations Unies, a même pas son pays. C'est lui qui a tordu les bras de tout le monde autour de la table en disant on va créer une institution qui va empêcher qu'on se fasse la guerre. Et quel pays n'a pas appartenu à la Société des Nations, les États-Unis, parce que le Sénat était dans un vent d'isolationnisme, puis ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas plus se mêler des affaires du monde. Et le reste est le reste. Et maintenant, le dépeçage de l'Empire ottoman, c'est ce qui en est resté, ce qui est devenu aussi le projet sioniste, le peuplement en terre de Palestine qui a mené à la création de l'État d'Israël. Tout ça, c'est relié au traité de Versailles. Ça fait 100 ans aujourd'hui. Je veux le souligner parce qu'il faut qu'on en parle.
Les ententes doivent être bonnes pour tout le monde, sinon elles n'existent pas. Restez avec nous. Après la pause, Luc analyse le deuxième débat des candidats démocrates. Je pense à brasser un petit peu plus. À tout de suite.